violence et cinéma, c'est-à-dire des rapports de la violence et du cinéma, en se demandant si la violence était un accident malheureux qui serait arrivé au cinéma à travers l'histoire, et notamment par son exploitation par les grandes dictatures du XXe siècle. Ou si, et c'est la thèse de Walter Benjamin, hein, dans son œuvre remarquable sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, où il nous fait comprendre que la violence est quelque chose qui est inscrit dans la nature même du cinéma, depuis ses origines, dans sa forme même, c'est-à-dire fonctionnant sur une esthétique du choc, de la surprise, de la succession automatisée et donc non changeable par le spectateur des images, sur une saturation perceptive, que ce soit par la taille de l'écran, la vitesse des changements à l'écran, et le son, hein. Une fois que cette violence est identifiée comme associée au cinéma depuis ses origines et dans sa forme même, de voir qu'elle n'est pas à quelque chose qu'il y a à dénoncer, mais à quelque chose dont il y a à comprendre le fonctionnement, et que cette violence qu'on expérimente au cinéma, toujours de manière incomplète, puisqu'on ne meurt pas des films qu'on voit, sert à survivre dans le monde réel, moderne, industrialisé, et à la fois quelque chose de compensatoire à la violence qu'on subit à l'extérieur, avec des effets de défoulement, le cinéma comique, burlesque, et ensuite de manière plus générale dans un monde mécanisé, un peu monotone, d'offrir des événements, et le mal fait événement par rapport au bien. Pourquoi voir quelqu'un qui souffre, ou par exemple dans Titanic on voit 3000 personnes mourir, ou il faut sauver le soldat Ryan, on voit donc des soldats se faire tuer. Oui, on en prend plein la figure, mais l'idée c'est toujours d'en prendre moins que ce qu'on voit, en prendre vraiment jusqu'à la mort plein la gueule. On voit un débarquement, ou on voit par exemple le raz-de-marée qui ravage New York dans le jour d'après, où on voit le bateau Titanic qui se casse en deux et qui fait mourir des milliers de personnes. Et comment se fait-il qu'on va voir ces films, que ce sont des gros succès, qu'on en tire du plaisir? Alors l'analyse que j'avais, moi finalement je me réfère à des philosophes lointains, anciens, grecs, mais donc toujours présents, comme Lucrèce, qui disait au début de De Natura Rerum qu'on a un plaisir à être sur le rivage et à observer un naufrage dans lequel on ne meurt pas. Le plaisir étrange de voir la souffrance de quelqu'un à laquelle nous on a échappé, et bien ce plaisir est inscrit dans la forme même du cinéma où on est spectateur, donc dans le confort d'un fauteuil, et où ce qui se passe à l'écran nous touche sans jamais nous concerner directement. On ne peut pas agir, on ne peut pas sauver les gens, donc on est libéré au fond de l'impératif moral de faire quelque chose de bien ou de mal. Et le spectateur de cinéma est toujours dans une posture qui le libère en fait des questions morales. Donc c'est ça aussi le plaisir. Pour moi, le but de Cinéphilo, c'est d'éclairer en fait, en utilisant des outils philosophiques et en les connectant avec les outils cinématographiques, ces opérations de cinéma. Quand Rivette disait que le travelling était une question de morale, oui, le cadrage c'est une question de morale. Quand on met, il se trouve que quand on met deux personnages dans un plan, eh bien il y a un conflit possible entre eux, et que les films reposent tous sur du conflit, et que donc cadrer deux personnes, c'est organiser un ring, en effet. Et donc, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut moraliser le cinéma, mais il faut réfléchir sur la puissance, en fait, voilà, des outils du cinéma. Et on ne peut pas, utiliser ces outils sans être conscient de leur impact. Voilà. Donc moi, le but que j'ai, c'est d'essayer de réfléchir, en fait, et de manière très concrète, hein, en montrant comment tel plan ou tel effet de tel mouvement de caméra correspond à une opération de l'esprit de tel ou tel type. Par exemple, le panoramique, ça correspond à l'énumération chez Descartes, ou dans le discours de la méthode, quand il parle de la simplification qui est nécessaire pour penser quelque chose, ça correspond à un cadrage, ou pourquoi pas à un zoom, c'est-à-dire on isole un élément par rapport aux autres. Donc en fait, voilà, c'est d'explorer tous les outils qu'utilise le cinéma, de son vocabulaire, de sa grammaire, en les mettant en relation, non pas avec des jugements moraux, mais avec des implications abstraites d'esprit, comprendre la relation entre les opérations de l'œil au cinéma, enfin de l'œil aux caméras, et les opérations de l'esprit, ce que ça provoque comme pensée chez le spectateur. Puisqu'il s'agit, c'est ça, hein, c'est en faisant se succéder automatiquement par le montage des images et des sons, faire naître des émotions et des pensées automatiquement chez le spectateur. Donc quel genre de pensée on crée. Bien, c'était des questions qu'on se posait beaucoup dans les années 30, auxquelles on faisait attention. Même le cinéma de propagande avait pour but de faire naître des pensées. Et on ne peut pas faire l'économie de cette question quand on a à sa disposition ces outils-là. Et au fond, le cerveau des centaines de milliers et des millions de spectateurs qu'on cherche à toucher. Voilà, donc voilà. C'est, effectivement, oui, il y a une responsabilité, évidemment. Mais je ne pense pas qu'on puisse la régler directement.